pour 1 000 000 d'euros. Ah, c'est reconstruction, c'est... Parce que quand il veut une affaire, il sait, il sape, et puis là, vu leur plan de charge, je pense qu'ils en font une...
Ils n'ont pas besoin.
Une réponse de principe, une autre réponse de principe.
Oui, restez polis pour les futures affaires.
Voilà, donc on a 3 offres qui sont en cours d'analyse. Les 3 sont au-dessus de l'estimation, dans des proportions. Il y en a une, je vous dis des chiffres de mémoire, j'ai pas le. Pour 1,7 million d'estimation, l'autre est à 4% au-dessus, à 1,8 million à peu près, donc il y a une phase de négociation et puis de comment dirais-je, d'économie technique peut-être, qui peut être faite, donc voilà, donc je pense que là, ça peut rentrer. Il y en a une qui doit être à 1,9 million et l'autre qui est à 2,5 millions. Hein, grosso modo, pour 1,950 et 2,050 millions. Donc il y en a quand même les 2 autres, donc l'analyse nous dévoilera sa consistance, la consistance des offres, hein, qui nous permettra de regarder s'il y a des petites variantes techniques proposées, acceptables, et qui permettraient, voilà, pour pouvoir aligner donc l'ensemble des candidats. Donc l'analyse, c'est la société Ecola qui le fait, qui est le bureau d'études économiste, comment dirais-je, missionné par Juliette Villermoz. Je les rencontre un petit point d'étape lundi soir pour permettre de poser les questionnements donc aux entreprises. Hein, donc on pose des questions sur la consistance de l'offre donc aux entreprises. Et vendredi prochain, on aura le rapport. Donc s'il y a des gens disponibles vendredi prochain après-midi, hein, on peut faire un point sur les offres.
C'est ce que vous me parliez. Donc,
voilà, ce serait plutôt...
Vous pouvez l'après-midi, vous m'avez parlé du matin.
Alors, ce serait plutôt l'après-midi. Plutôt
l'après-midi. Ça serait à quelle heure?
Tu veux dire ça? Bon, on peut en convenir ensemble.
Parce que moi, j'aurais une grosse préférence pour vraiment le début d'après-midi.
On va s'adapter.
J'ai une AG le soir, donc je suis trésorier.
Ça peut être à l'heure que vous voulez, ça peut être à 13h30 si ça vous arrange.
13h30, ça m'irait très bien.
Hein, ça permet de... Hein, je sais pas si, par contre, je m'engage, peut-être que le maître d'œuvre n'est pas disponible ou pourra venir nous rejoindre. Néanmoins, on peut déjà...
Vous aurez déjà des éléments.
Ah ben, j'aurai le rapport.
D'accord.
J'aurai le rapport d'analyse.
Oui, bon, 13h30, qu'est-ce qu'on dit, 13h30, 15h30, un truc comme ça.
Exactement. Hein, on peut faire ça.
Oui, ben, parfait.
Le rapport d'analyse, est-ce que c'est un document qui est partageable ou pas?
La réponse est non. La réponse est non. On ne peut pas divulguer. C'est pas possible, puisque là, on est face à la concurrence, donc on ne peut pas révéler des éléments. Hein, donc on ne peut divulguer que les résultats de la commission. C'est-à-dire que la commission a statué. Effectivement, on ne peut pas...
Okay. Très bien. Je te laisse introduire.
Oui, bah, mon introduction, elle va être succincte, puisque moi, j'ai pas été très acteur dans le travail du groupe. J'étais plutôt été regardeur qu'autre chose. Donc le groupe, bah, depuis l'intervention, avec l'intervention de Pascal Lancel, le groupe a travaillé on a fait des groupes de travail sur plusieurs thématiques. Donc on a un groupe GT bâti, on a un groupe recrutement et communication, il y a un groupe finance et statut juridique, il y a un groupe voisinage, voilà. Donc je vais laisser un petit peu les...
Oui. Peut-être l'un des points importants, oui, à souligner, hein, c'est... une dimension collective qui s'est encore renforcée. Je crois le fait de travailler en groupe thématique, de prendre conscience que le sujet c'est interdépendant et que pour développer la capacité d'action du groupe, c'est de travailler chacun sur un sujet, de faire confiance et de remettre en plénière les fruits de ce travail pour le valider ensemble. Voilà. Le groupe voisinage, qu'est-ce qui parle?
Voilà, alors nous, à quatre, donc Claude Janot, Marie-Claire Quinchaise, Janine et moi-même, nous avons travaillé à la rédaction d'une charte fondatrice où on a pesé chaque mot. Ça représente vraiment les valeurs fondamentales de notre projet collectif. Alors, elle n'est pas complètement aboutie, cette charte, donc on ne va pas pouvoir vous la laisser, mais on peut vous la lire et puis en tout cas, dès qu'elle sera terminée et validée par le groupe, on vous la transmettra bien sûr.
Alors je peux vous la lire. Charte fondatrice de l'habitat Calmette avec un sous-titre Vivre ensemble chacun chez soi. En préambule, notre groupe s'est engagé à créer un lieu de vie alternatif ouvert sur le quartier qui tende à trouver un équilibre entre vie collective et vie individuelle. L'harmonie, la fraternité et la confiance mutuelle sont également pour nous des valeurs fondamentales que nous nous engageons à mettre en œuvre au quotidien. La présente charte formule ces valeurs et est acceptée, ça devrait être un futur bien sûr, par chacun de ses habitants. Alors, il y a quatre chapitres. Le premier, vie individuelle et collective. Chacun s'engage à respecter l'intimité de l'autre, son espace personnel et familial, son mode de vie. Deuxième point, nous souhaitons pouvoir effectuer des choix individuels libres tout en étant dans une dynamique de mutualisation, de coopération, dans un climat de confiance. Le deuxième grand point, c'est solidarité concrète et intergénérationnelle, convivialité. Nous nous engageons à nous entraider et considérons la diversité sociale comme source d'enrichissement du groupe. Nous souhaitons rechercher de prime abord le consensus, qu'on va peut-être glisser vers le consentement, on reverra la dénomination là. Consensus pour toute prise de décision. Nous voulons favoriser l'épanouissement de tous au travers du dialogue, de l'écoute et de la solidarité. Troisième point, citoyenneté. Nous veillons à cultiver des relations harmonieuses avec le voisinage et nous nous voulons ouverts sur l'extérieur, reliés au quartier, à la vie locale et au monde. Dernier point, l'écologie. Soucieux de l'environnement, nous nous engageons à limiter notre empreinte écologique en adoptant un mode de consommation responsable. Et il manque une dernière petite ligne, c'est que cette charte est susceptible d'être révisée en fonction de notre vie commune dans le bâti.
Effectivement, quand j'entends révision, ça fait toujours un peu difficile.
Difficile.
L'intégration dans le règlement de copropriété, parce que quelque part, j'ai pensé si ça pourrait effectivement être quelque chose qui soit annexé au règlement de copropriété, mais si vous pensez révision, tout de suite ça tombe.
Ouais.
On ne peut pas revenir toutes les 5 minutes révision d'un règlement de copropriété.
Alors, en fait, on peut le mentionner, on peut dire que.
Voilà, mais
mais on peut faire allusion à la charte dans le préambule du règlement de copropriété. Pour qualifier l'intention commune. Mais effectivement, avoir la souplesse, puisque c'est.
Regardez la souplesse si vous souhaitez la réviser.
Ok, très bien. Donc, il n'y avait pas de besoin spécifique du groupe comité de voisinage, sinon que vous vouliez informer du fait que vous participiez aux rencontres aux Journées Portes Ouvertes de l'habitat participatif en un mois de mai. Par anticipation, le 26 avril, vous ferez un événement en lien avec le quartier.
Oui. On peut vous laisser la feuille de manière à ce qu'on souhaite évidemment votre présence. Jeudi 26 avril, à partir de 18h, sur le site même de l'école Calmette, Et sur le site, vous avez la fiche qui est beaucoup plus jolie que celle que vous avez là sous les yeux, parce qu'elle a été tirée par le petit imprimant. Ce que nous souhaiterions, c'est bien entendu votre présence, mais aussi peut-être le concours de votre service de communication, si vous pouvez faire quelques photocopies jolies que nous pourrions, nous, diffuser un peu partout. J'en ai déjà mise deux, moi. Je suis allé à l'université, je suis allé à la maison de recherche en sciences humaines, et il y en a une qui est aussi... sur le canopé, c'est-à-dire l'ancien CRDP. Donc voilà les lieux où on peut espérer être vu, attirer des gens, parce que le but, évidemment, c'est la convivialité, le rapport au quartier, mais ça, je crois qu'on a déjà quelques éléments là-dessus, mais c'est d'essayer de trouver des personnes sur les logements vacants, les 60 mètres carrés qui restent vacants, deux en PSLA et un en accession directe, puisque Marie-Christine Corbeau s'est retirée du projet, ça fait donc trois logements qu'il faut essayer de pourvoir. Donc c'est un travail de communication, mais on est dessus.
C'est ça.
Et dès dimanche matin, on reçoit 6 personnes qui se sont prononcées sur les logements 60 mètres carrés. Bon, évidemment, si on a de bons résultats, on vous fera savoir. Pour le 90 mètres carrés, vous le savez déjà, il y a 2 personnes qui se portent dessus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour eux.
Vous dites deux personnes sur le 90.
Un couple.
Un couple.
Oui. Tout de suite en deux candidatures.
Non.
C'est une candidature.
Donc, dans ce qu'on peut souligner là, c'est que le groupe prend à cœur le fait de s'élargir et de trouver des solutions pour les gens vacants, en sachant qu'il y a des problématiques de financement qui sont. Seront à traiter par ailleurs.
Juste puisque je prends la parole là-dessus, sur le site, il y a une fiche, un questionnaire, qui est en quelque sorte très découpé sur 9 cases. Alors, je ne vais pas les lire, mais ça nous plaît. Oui, bon, je peux les lire rapidement. Il y a d'abord évidemment les civilités, nom, prénom, adresse email pour les personnes, de manière à ce qu'on puisse les recontacter éventuellement après. Et puis, il y a 9 catégories qui nous permettent d'abord de faire connaissance, c'est le but, et puis en même temps de voir aussi par rapport à la charte s'il y a adéquation, etc. Bon, je lis rapidement, sur les 9 catégories, il y en a une qui est comment vous voyez-vous dans un habitat participatif. La deuxième, exemple concret de ce que vous souhaitez partager. Nous avons décidé entre nous de ne pas vous communiquer, par exemple, la fiche qui a été remplie par le couple Leroy qui se porte sur le 90 mètres carrés, parce que c'est des choses qui peuvent être considérées comme personnelles. Mais en gros, les catégorisations, on les fait. Moi, par exemple, j'aimerais faire sur des curseurs, que ça aboutisse sur un tableau après. Par exemple, catégorie 3, talent, hobby, compétences particulières. Si quelqu'un déclare je peux faire la maintenance de la toiture, c'est bien vu. Implication associative, ça
j'espère
c'est.
J'espère qu'elle tiendra quand même.
On espère aussi.
Ça paraît délicat de se
traiter la toiture. Quelqu'un pour entretenir la toiture.
On parle de l'entretien, on ne parle pas de préparation.
Non, mais pour être plus sérieux, il y a par exemple les centres d'intérêt. Si le centre d'intérêt c'est sur le jardinage, etc., vous voyez que bon, c'est pas tout à fait désintéressé de faire remplir une fiche comme ça. Ça permet de faire connaissance, ça permet de voir les compétences des personnes, voir leurs engagements déjà dans des structures associatives, et donc à partir de là, de savoir si elles sont bienvenues. Donc je vous laisse peut-être la fiche, parce que là-dessus aussi, je le dis, je prends l'initiative de dire, on n'a peut-être pas assez mis l'accent sur le côté financier. On aurait peut-être dû prévoir une 10e case pour ces histoires. Revenu fiscal de référence. Demander aux personnes peut-être de remplir ça et de vérifier de la sorte si on n'est pas dans...
Je pense que d'abord c'est l'adéquation.
Il ne faut pas effrayer
le foyer avec votre intention. Quoi.
À recevoir les gens, je vois que dès les premières minutes de l'entretien, c'est les problèmes financiers qui viennent. Donc peut-être les anticiper sur la fiche. Bon, là-bas.
C'est l'observation.
Une observation. Bon, c'est tout.
Ok. Alors.
Pour vous répondre, je serai présent. Je suis dispo. Je viens d'envoyer le message à Gaël Marguerin, s'il est dispo, qu'il puisse m'accompagner.
Merci. Merci, c'est vachement bien. J'étais organisation. Sébastien, tu...
Oui, un bref petit mot. Donc, sans aller, c'est le groupe de travail qui, comment on pourrait dire, qui veille à ce que les énergies du groupe soient utilisées à bon escient pour éviter une fatigue prématurée. Parce que c'est vrai que l'aventure Calmette est passionnante. Passionnante et animée par des gens passionnés, mais il devenait urgent de mettre. En tout cas, il devenait important de s'appuyer sur des outils d'animation de réunion et aussi des outils originaux qui invitent le groupe à se dépasser et à explorer des solutions, en tout cas des solutions alternatives pour débloquer des fois des situations de tout ordre. Voilà. Donc, et le groupe de travail organisation s'appuie beaucoup forcément sur les apports théoriques de Pascal Dancel. Voilà, c'est notre idée, notre source d'inspiration pour nous entraîner et entraîner le groupe à s'appuyer sur des outils inhabituels et très intéressants.
C'est pas très théorique, hein, c'est aussi pratique. Hein.
Oui.
C'est la pratique.
On a pratiqué.
Mais il faut les mettre en pratique, voilà. Mmh. Bon, c'est ce que l'on fait. Voilà. Moi, j'aurais pas grand-chose à rajouter là-dessus. Hein. Donc, effectivement, le groupe organisation, ce qui s'approprie, c'est, on va dire, aussi les animations des réunions d'information. Des réunions, excusez-moi, je cherche mes mots.
Le téléphone qui sonne.
Ouais, c'est ça qui me trouble. Dans l'immédiat.
Et puis,
on a le soutien, parce que là, je vois mise en place d'un nouveau site, et nous avons un informaticien de haut niveau. Et ça, c'est une chance pour Calmette, qui a mis en place, mais je vais laisser la parole, qui a retravaillé sur le blog Calmette et qui a une super interface pour communiquer avec l'extérieur. Et pour le groupe Orga, c'est un support informatique extra, justement pour organiser toute la masse d'informations sur les différents thèmes du vivre ensemble, de la finance, du juridique, de comment communiquer à l'extérieur. Donc c'est vrai que Eric, et là je te donne la suite sur ton blog, si tu veux dire un petit mot.
Il existe déjà depuis, même avant Calmette, le projet Calmette. Ouais. Bon, mais maintenant on a un hébergeur officiel. Qu'on paye une adresse officielle calmettehabitat.fr, donc c'est du solide, un hébergement professionnel. L'idée, c'est de mettre le mieux possible à disposition de tous les membres du groupe les différents documents, les discussions, les nouvelles, et en même temps c'est toute la mémoire du projet qui se trouve là. Dans ce blog, dans ce site, il y a deux parties, une partie publique et une partie privée. Dans la partie publique, on met des informations plus générales, notamment l'appel à candidature, le petit formulaire, l'affiche qu'on a vue tout à l'heure. Bon, ça c'est la communication externe. Et en interne, évidemment, avec des mots de passe pour accéder, chaque membre peut... trouver son bonheur.
Si vous voulez la photo du bâtiment, vous cliquez sur les fenêtres et apparaissent les foyers concernés.
C'est bien, c'est sympa. C'est vous qui avez
fait ça? Oui.
Je vous ai prévenu, c'est un informaticien de haut niveau. Ah oui, il s'est donné beaucoup de mal quand même. Hein.
Oui,
c'est
pas ça.
Il faut cliquer sur la porte d'entrée. Voilà.
J'ai trouvé que c'était sympa.
Ouais, c'est sympa.
Alors j'ai mis quand même, je me suis permis de mettre sur la marge de droite sur le site un certain nombre de liens, dont nos partenaires privilégiés, Cohabitat, les architectes, etc.
Ouais. Donc c'est un outil de communication qui peut être aussi relayé à travers le site peut-être de Cohabitat. Du reste, je ne sais pas si vous avez établi ce lien, Eric. avec voilà, par exemple
officiellement non moi je me suis permis de mettre le lien quand même à l'état
et peut-être que dans le cabinet
d'architectes qui sont nos partenaires
d'accord un peu d'eau
mais on peut
il y a la photo de la signature
qui se parle
oui si vous y êtes sur le site au pilier au bout de 3 ans avec
Elle est
bien en plein air bien sûr elle est dedans.
En plus, il y a la maîtrise d'œuvre qui est présente.
Oui, il y a les petits diaporamas, du pique-nique qu'on a fait sur le terrain.
Ah. Ça, c'est... En tout cas, c'est comme une, effectivement une mémoire du projet, des grandes étapes du projet. Ok. Alors, j'étais bâti.
A besoin.
Attends, moi, j'ai pas vu le besoin. Excuse-moi.
Besoin. Non, c'est important.
Oui, ben, certainement, oui. Le besoin.
Oui.
Ah oui, effectivement.
Effectivement, c'est très important.
Alors, qui est-ce qui exprime ça
C'est-à-dire que pour illustrer vraiment, enfin oui, on essaye d'être cohérent entre. Voilà, on a commencé par vous présenter des extraits de la charte. C'est vrai qu'on essaye vraiment d'être cohérent avec nous-mêmes. Dans notre démarche à l'interne, mais aussi dans la démarche avec nos partenaires, donc que ce soit quand la maire ou les architectes. Et on essaye de faire en sorte que chacun de nos actes soit porteur de la démarche collective, de l'énergie. Et dans un fonctionnement classique, on va dire que les signatures de contrats préliminaires se font de façon individuelle. Voilà. Et donc là, ce qui nous semble important et fortement symbolique, et puis pour que les partenaires prennent bien la mesure de ce que Calmette représente, c'est qu'effectivement, cette signature des contrats préliminaires, qu'elle puisse se faire de façon collective. Voilà, ça c'est l'idée. Ça peut paraître un petit peu curieux, mais pour nous, ça a beaucoup de sens. Voilà, c'est vraiment une dimension, on avance ensemble, que ça soit dans les moments sympas comme les moments plus compliqués.
Voilà. C'est l'aboutissement collectif.
C'est l'aboutissement collectif
ouais, de notre projet collectif.
Tout à fait. Voilà. Donc c'est un besoin exprimé.
Juste pour répondre à cela, effectivement, moi aussi, ça aurait très bien pu être un choix donc fait à un moment donné et d'arriver sur une signature collective. La difficulté de la signature collective, effectivement, c'est d'avoir des dossiers qui présentent le même niveau, je dirais, de renseignement, de validation. Financière pour pouvoir recevoir au moins une signature collective. Là, c'est pas du tout la situation. Bonhomme, alors, je suis le point hier avec M. Lemasson et M. Germaine. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dossiers aujourd'hui qui ont des difficultés et nous, on a l'obligation, j'irai d'avancer pour obtenir ces signatures. Parce que signature, ça conditionne quoi? Les ouvertures de garantie pour l'opération, la possibilité de débloquer les fonds. Là pour l'instant, ouais. Donc je prends mes signatures, je ne bloque rien. Hein? Et ensuite, donc effectivement, de pouvoir, le troisième point, de pouvoir lancer l'opération, puisque c'est quand même, je dirais, ça qui a conditionné le lancement de l'opération, bien sûr, c'est la signature d'un maximum de contrats de réservation avant de donner le feu vert aux entreprises. Donc, là aujourd'hui, j'y vais au fil de l'eau en fonction des situations. J'ai pris la situation de M. Lemasson l'année dernière parce qu'il fallait la prendre en urgence. J'avance petit à petit les dossiers avec les difficultés que je rencontre aujourd'hui avec les situations financières, avec les difficultés des personnes qui n'ont pas forcément les niveaux d'apport suffisants. Et donc,
Ce que j'entends, je comprends bien la préoccupation et l'intention.
D'arriver, même si l'intention est bonne, et que moi aussi j'aurais préféré effectivement, tous vous conviez un jour et on faisait une corvée de signature, entre guillemets. Et puis.
Est-ce que ça ne voudrait pas dire que les problématiques que vous rencontrez, elles devraient être partagées au groupe pour que on puisse trouver des solutions collectives. On l'abordera après, mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette idée qu'il y a une volonté des membres du groupe d'agir de façon solidaire. Quand on traite les sujets de façon individuelle, en fait, on ne met pas en avant cette solidarité. Et donc, ça peut rendre plus compliqué la résolution de problèmes, alors que s'il y a une prise de conscience collective et la mise en commun de moyens de solidarité pour la résoudre, peut-être qu'on avancera mieux. Je comprends aussi qu'il y a eu un examen des dossiers bancaires par le Crédit Foncier, qui est peut-être, je ne sais pas si on peut le qualifier de plus... soit plus timoré ou moins engagé, je ne sais pas, que des banques qui sont peut-être des banques personnelles qui sont connues et qui font plus confiance, quoi. Donc, l'examen par rapport à une banque qui serait peut-être un peu critique sur un dossier, peut-être qu'on peut l'obtenir par un avis de la banque personnelle du foyer concerné, voire une recherche de solutions qui conforte les apports ou qui réduisent le champ, l'enveloppe globale à obtenir pour ce foyer-là, quoi. Donc, on vous présentera après les recherches de cette nature.
Ouais, ce qui serait peut-être intéressant quand même pour marquer, c'est lorsqu'il y aura suffisamment, parce qu'il faut un certain nombre de signatures,
pour
débloquer les fonds. Et que faudrait peut-être faire un temps, je ne vais pas dire festif, mais dire voilà, ça y est, on lance l'opération, est-ce qu'on peut faire.
Tu veux dire si on continuait à examiner la situation individuellement.
Oui, mais.
On peut aussi considérer que M. Lemasson examine 5 dossiers, okay, qui soumettent les problématiques rencontrées au groupe, de façon à ce que le groupe.
C'est ce qui a été fait,
oui. Oui. Oui, on est d'accord. Mais pour qu'on puisse envisager une signature collective, il faut qu'il y ait un peu de temps donné au groupe, à partir du moment où il a l'information qu'il y a des problèmes à traiter, pour qu'il puisse essayer de trouver des solutions à ces problèmes et revenir vers vous avec des propositions, okay, ou revenir avec la banque, avec des confirmations de capacité d'emprunt dans des banques individuelles. Voilà. À partir de depuis hier, effectivement, il y a une prise de conscience des problèmes,
bien sûr,
des différents problèmes qui se posent. Donnons-nous un peu de temps pour. On va y travailler demain, on sera en réunion ensemble demain, pour essayer d'apporter des solutions et d'envisager la signature collective, au moins du montant qui vous permet de débloquer l'opération. Enfin, si j'ai bien compris, il faut que vous atteigniez au moins 30%, c'est ça?
Oh non. Au moins pour la c'est garanti qu'il y a les 30%, et après pour l'OS, on voudrait au moins atteindre les
70%. 70
pour l'OS.
70 en nombre ou en montant?
En montant. On le fait pas en montant, on le fait en nombre.
En nombre de personnes.
En nombre de personnes.
En d'appartements.
Voilà,
c'est bon.
Sur l'aspect frais de commercialisation,
ça fait une douzaine
de promoteurs.
Ça fait une douzaine
de promoteurs. Quand il fait un prix, il a un montant de tout ce qui est pré-commercialisation, qui est relativement important pour sa couverture de risque. Nous, à partir du moment où nous, ici, on avait face à nous un groupe constitué, là, on l'a complètement écrasé. On a pour minorer les prix, on était dans cette logique-là. Donc, la contrepartie fait qu'aujourd'hui, ça nous est difficile à nous de nous engager si on n'a pas, si on n'a que 30% face à nous de gens pour signer. C'est le principe, c'est celui-là.
Okay. Bon. Très bien. On a compris.
12 foyers, c'est ça.
Là, je dis, c'est moi qui donne ce chiffre. On comptera, je dirais, avec mes scolaires aussi, puisqu'elle est également, je dirais, donc. Décisionnaire sur cet aspect, donc effectivement pour voir effectivement quel sera le retour. Par rapport à l'ensemble des candidatures aujourd'hui connues, on sait qu'il en manque encore. Donc ça serait bien effectivement que demain, vous allez rencontrer vos candidats, effectivement que le portefeuille c'est certainement un peu plus, quoi. Ça devient important et urgent.
Très bien.
Parce que ça va conditionner forcément à un moment donné le lancement de l'opération.
Ok. Alors.
C'était pour la fiche suivante.
J'étais bâti.
Oui, c'est ça. Donc, comme Elodie suit plus particulièrement l'opération, voilà. Donc, s'il y a des éléments de réponse à devoir apporter, j'ai eu échange avec M. Brochard et avec Mme Jamais aussi.
Là, on vous a déjà communiqué, on a eu des échanges, on a repris le gros dossier,
oui,
on a épluché.
Je me souviens plus qu'on nous a fait parvenir la réponse de l'architecte. Il y a eu effectivement donc un certain nombre de questions.
Pour les questions.
J'avais répondu la première fois, j'avais les éléments de réponse, j'ai pas attendu. Il y avait un autre volet où j'ai demandé au bureau d'études et à l'architecte effectivement de devoir me répondre, chose qui a été faite, parfois de manière assez sommaire.
Si on a un fichier,
c'est ça, vous l'avez
technique. Oui, oui. On a tout épluché, tous les chiffres sont bons.
D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus.
La dernière chose, c'était quand on a repointé les volets, les volets roulants.
Oui.
On a trouvé vous avez reçu le. On a récapitulé ça avec Benoît. Certains en avaient demandé et ne l'ont pas. Certains sont en option. Enfin, il y a encore
C'est un aspect pour nous compliqué à répondre dans la mesure où ça s'est fait avec l'architecte, lorsque vous avez eu vos entretiens donc individuels. Et donc, comme ceux qui ont collationné, quantifié donc, l'ensemble des éléments, je vais peut-être avoir, moi, aujourd'hui, du mal à vous répondre. Par contre, devoir vous apporter satisfaction après coup, on peut toujours, au stade du marché tel qu'il est aujourd'hui, faire le point, ajuster, et ça va être fait. Qu'il n'y ait pas d'impair au stade de la... au niveau de l'appel d'offres, il est parti. Même au niveau de la signature du marché, et quand bien même, il y a toujours la possibilité, soit par voie d'avenant ou quoi que ce soit, de rajouter ce qui aurait été laissé de côté. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci particulier sur cet aspect-là. Ce qui me gêne, c'est qu'on ait des difficultés, comme on l'avait évoqué, dans la configuration d'une poutre qui viendrait à passer. Ça m'embête plus aujourd'hui de ne pas résoudre ou de passer là-dessus. Que d'avoir oublié à tel ou tel endroit un volet roulant qu'on saura toujours remettre.
On avait vu ça avec les architectes.
Et voilà,
on a déplacé des portes. Nous, on a inversé pour pouvoir avoir le volet roulant sur
Techniquement, c'est vu avec eux. Maintenant, effectivement, il y a la traduction. Ce sera l'examen qu'on fera donc des offres techniques par rapport à ça.
Là, il s'est passé des volets roulants sur des portes-fenêtres et principalement au rez-de-chaussée.
Oui, il y a beaucoup de étages aussi.
Il y en a Henri, au troisième, le studio, et puis un autre, c'était l'appartement au deuxième de Marie-Christine.
Oui, sur le deuxième étage. Voilà. Je vais me souvenir.
Donc, là, éventuellement, si c'est des questions de coût, on peut éventuellement permuter, puisqu'il est inoccupé, avec un rez-de-chaussée qui n'en aurait pas. Enfin bon, si ça peut se régler.
Bon, je le note comme un point, un point à parfaire.
Voilà. Ok. Voilà. Il restera à faire, mais c'est pas l'objet de la journée, enfin de la réunion. Là, ça convient les modalités du suivi de chantier.
On a échangé donc dessus. On a dit qu'un chantier, c'était un chantier. On peut pas y aller comme ça de manière. C'est pas en plus, il faut un casque. On aura face à nous une entreprise générale qui sera vigilante sur les aspects de sécurité. C'est-à-dire, lorsqu'on est en configuration corps d'état séparé, les entreprises connaissent pas toujours les salariés. Là, c'est beaucoup plus bordé. On aura une conduite avec un conducteur de travaux sur l'opération. Les entreprises, effectivement, une entreprise générale avec ses sous-traitants, mais qui connaît bien son monde. Donc là, manifestement, un chantier n'est pas ouvert donc, au public. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas sur le chantier. Ça veut dire qu'on a prévu ensemble, on a échangé dessus, l'organisation de visites régulières de ce chantier-là. Je crois qu'on les avait prévues le vendredi après-midi, avec un accompagnement. Donc on a abordé un peu cet aspect-là, que vous puissiez le suivre, qu'on puisse vous expliquer. Mais à tout moment, vous ne pourrez pas débarquer sur le chantier.
Le jardin, on commencera plus tard.
On avait évoqué la possibilité de participer, c'est un grand mot, d'assister, on va dire, aux réunions de chantier, à titre de, je dirais, informatif en fait.
Alors, spontanément. Ponctuellement, à tous les rendez-vous de chantier, je ne sais pas si c'est opportun.
Oui, il y en a
peut-être. Je ne sais pas.
Les réunions qui sont plutôt crucial, quoi.
Ouais.
Oui, oui, oui,
parce que les rendez-vous, les rendez-vous de chantier, ça peut être assez, assez loué. Et puis, avant, vous allez passer la matinée, ça peut être assez banal. Et puis, il faut pas le risque d'une maîtrise d'ouvrage vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre et vis-à-vis de l'entreprise, c'est qu'à un moment donné, on puisse avaliser quelque chose contre l'avis de la maîtrise d'œuvre pour lequel on dégagerait sa responsabilité. Donc le maître d'œuvre et l'entreprise, l'entreprise est responsable de son marché, le maître d'œuvre est responsable de la conduite des travaux. Et à partir de là, il ne faut surtout pas, et nous on est assez vigilants, dans les routes de chantier, hein, à ce que la maîtrise d'œuvre assume bien, effectivement, ses obligations en termes. Donc là, il y a un risque. Moi, je ne sais pas, faut qu'on mette quelque chose sur pied. Moi, la visite mensuelle me plaît bien, et qu'à cette occasion-là, le questionnement que vous puissiez avoir, on puisse y apporter les éléments de réponse. Hein, donc,
voilà. Des réunions sur l'autre, vous voulez dire
parce que vous êtes relativement, vous viendrez, c'est intéressant, un chantier. Donc, le rendez-vous de chantier, vous risquez à tour de rôle, peut-être, de vouloir y venir les uns les autres. Et je ne voudrais pas perturber non plus le fonctionnement même du chantier. Donc, j'ai bien pris note, et ça me paraît tout à fait normal, hein, c'est dans la conception même du travail tripartite qu'on a. Mais je ne le fais pas, en termes de maîtrise d'ouvrage, m'immiscer dans la responsabilité du maître d'œuvre. Donc, je ne voudrais pas qu'on aboutisse à ça. Donc, la visite mensuelle, qu'on puisse, vous puissiez poser des questions et qu'on puisse vous y répondre. Si vous voyez des choses, ça me paraît mal fait tout, et dans ce cas-là, vous le dites, hein, je le relèverai. D'abord, j'essaierai d'expliquer, parce que nous aussi, on a notre rôle en tant que maître d'ouvrage. On sait aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Hein, donc, on a aussi cet œil averti. Hein, donc, qu'on puisse vous répondre aux besoins que la maîtrise d'œuvre puisse faire remonter donc, au niveau de l'entreprise.
Ok. Juffy, Jean-René, c'est toi qui parle de ça?
Juffy, bien, c'est un groupe assez compliqué parce qu'en fait, il doit s'occuper éventuellement d'une partie juridique et pour aboutir sur le règlement intérieur de copropriété et aussi. Pour la partie finance, donc, mais ça rejoint les problèmes que l'on rencontre et sur lesquels on va travailler. Mais c'est vrai que c'est là que bon, Pascal a amené des possibilités et puis qu'on avance un peu plus là-dessus. L'idée, c'est quand même toujours la notion de solidarité. Comment arriver à en mettre une en place pour résoudre certains dossiers.
Voilà. La partie financière.
Oui, bah c'est.
Voilà. On va dire que l'habitat participatif n'est pas naturellement orienté vers la structure juridique copropriétaire, qui est un dispositif, on va dire, très commun, qui ne met pas en avant la solidarité. Hein, chacun ayant son lot privatif, et on partage avec plus ou moins de bonheur des espaces communs. Rarement des locaux mutualisés choisis. Là, il y a à la fois l'espace commun plus les locaux mutualisés choisis. Et au bout du compte, ça fait un gros volume. Ça fait un gros volume qui pèse dans le financement des foyers, notamment ceux qui sont les moins fortunés ou qui ont des besoins en termes d'espace supplémentaires. Donc la réflexion par rapport aux clés de répartition est aussi importante. Donc c'est pas seulement la propriété, mais le fonctionnement qui est en cause. Vous avez examiné différents exemples de règlements de copropriété qui sont réalisés dans l'habitat participatif, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns. Quelquefois dans les opérations mixtes, où il y a du locatif social, de l'accession sociale, de l'accession libre. Et puis le groupe a adhéré à l'ARC, qui est l'association des responsables de copropriété, pour avoir aussi ce soutien-là. Voilà, donc j'ai essayé de prendre contact, mais tardivement, avec le notaire, pour lui poser quelques questions. On aura fait ça plus tard.
On a expliqué les groupes de travail qui sont formés, donc il y en a plusieurs natures, il y a bâti, juridique et financier, voilà, sur l'analyse des offres, et donc vendredi prochain,
il y aura des représentants.
3h30, il y aura des représentants.
D'accord, ok.
Merci.
Tu peux inviter quelqu'un de la maîtrise d'œuvre, si tu veux, à cette réunion de vendredi prochain, si quelqu'un est disponible.
D'accord. D'accord.
Bon,
on
a
mis quelle heure
déjà?
13h30,
oui. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Oui, donc la question, c'est comment conjuguer une description ou une définition des lots de la copropriété pour faciliter son partage financier par l'ensemble des foyers présents qui depuis 5 ans travaillent sur le sujet, quoi. Donc, même si aujourd'hui la banque nous dit il y a des difficultés, comment on peut faire en sorte qu'il y ait quand même que chacun soit membre du groupe et qu'on arrive à pérenniser l'ensemble des foyers. C'est donc plus important qu'il y a ce seuil à atteindre pour déclencher l'opération.
Un million d'années, effectivement. Il faudra qu'il puisse avoir les candidats à cette opération si d'être chancé, donc on l'a déjà dit. Donc, aujourd'hui, c'est de caler la main et à un moment donné, on va de reprendre la main, là aussi, combler s'il y a besoin. Voilà.
Donc, alors, on a essayé.
On va pas attendre. Là, on est où, là?
Oui.
Faut que ça se passe. Hein.
Tout à fait.
Et on a 6 semaines.
Et on a 6 semaines. Hein.
Donc, faut faire
faux,
puisqu'on
fait que les choses se précisent.
Le 1er juin, sinon après, c'est notre subvention qui
perd
en cause.
On perd l'argent, effectivement, donc là aussi, ça les a coûtés. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Et donc, en plus, effectivement, autant, même si on a les entreprises, c'est quand même dommage, je dirais, de continuer à prendre du retard. Je crois qu'il faut qu'on puisse raisonnablement
rentrer dans
le concret.
Mmh. On est 70%.
Donc là, j'ai essayé de résumer la situation. Peut-être que vous pourrez apporter des compléments. Donc la maîtrise d'ouvrage, on va dire s'il y a une co-maîtrise d'ouvrage entre Quand la mer habitat et Edifides. En sachant que la maîtrise d'ouvrage opérationnelle est quand même portée 100% par Quand la mer habitat. Voilà. Vous avez signé, a priori, une convention avec un promoteur. Voilà. Je ne sais pas quand, mais ça concernait en particulier deux foyers dont le revenu fiscal dépassait le plafond du PLI accession. Voilà. Du côté des habitants, il y a 14 foyers présents sur les 17 prévus, avec un cinquième qui vient de se rajouter dans les accédants libres, et notamment pour un appartement important de 30 mètres carrés en accession libre, donc le plus cher, qui serait aussi au-dessus du PLI accession.
Allez.
Oui, je sais. Non. Donc là, on pose le cadre, ouais. Les problématiques. Donc, il y a peut-être 3 ou 4 PSLA avec des difficultés de financement ou un refus actuellement du crédit foncier. Donc un foyer accédant libre supplémentaire au-dessus du PLI, et il restera 3 logements vacants. Donc pour lequel il y a des candidats potentiels qui n'ont pas été encore confirmés ni examinés sur le plan financier. Donc ça, c'est le cas. Il y a des intentions réciproques. On va dire que quand la maire a toujours recherché des solutions au fur et à mesure qu'elle se présentait, dans un contexte qui n'est pas très connu, l'habitat participatif ou l'accession sociale, donc c'est appréciable de voir votre recherche de solutions. Les habitants, globalement, on va dire, il y a 12 foyers intergénérationnels et une personne avec handicap qui est un peu moins présente dans la dynamique du groupe, mais bon, il n'a pas non plus la disponibilité ou la capacité de l'être. Sa famille n'a jamais assisté aux ateliers, en tout cas. Voilà. Il y a un contexte où le choix de la copropriété a été fait depuis longtemps, et donc. Avec une demande de règlement de copropriété au début du chantier. Ça, c'est un élément sur lequel moi je reste en interrogation. Je n'ai pas totalement compris, mais vous allez m'expliquer sans doute pourquoi il faut que ce règlement de copropriété soit totalement validé avant le début du chantier.
Parce que nous avons volonté, là aussi, pour la partie accession libre, de faire signer les contrats avec les accédants au débarrage, de manière à ce que cette partie-là qui n'est pas financée soit financée par les accédants eux-mêmes au fur et à mesure de l'unification des constructions, comme ça se fait dans toute opération.
C'est le contrat de départ.
C'est le contrat de départ, classique.
Mais le contrat de départ n'a pas besoin de faire référence.
Enfin, ne pas je ne sais pas.
Non, il n'a pas besoin.
Si le contrat de VFA peut attendre le contrat de le règlement de copropriété, on verra. Jusqu'à présent, j'ai toujours vu les règlements de copropriété notifiés en même temps que les contrats de réservation. Donc je verrai avec le notaire pour m'en assurer, parce que là ça me paraît quand même, je dirais, important. À un moment donné, je dirais, pour ceux qui sont en PSLA, le risque il est moins important, puisque le transfert de propriété se fait donc à l'issue des 12 mois de travaux plus les 6 à 8 mois qu'on a derrière. En gros 2 ans derrière pour que les choses, je dirais, se précisent. Et là, effectivement, on fixe des conditions de prix. Quand on vend, on a un prix. Donc on vend les surfaces, on vend une façon effectivement de répartir les choses. M'étonnerait fort que je dirais que la personne achète et qu'on, derrière, je dirais, on lui crée des charges supplémentaires par les effets d'un règlement de copropriété qu'il n'aurait pas signé, je dirais, au moment de son acte d'achat.
Oui. Donc ce que j'entends, c'est moins la rédaction du règlement de copropriété que les conséquences de la répartition des lots qui pourrait avoir sur le prix total.
Voilà. Moi, aujourd'hui, en tant que bailleur, nous achetons régulièrement des logements en VFA, dans des immeubles. Quand nous signons le contrat de réservation, je n'ai pas le règlement de propriété. Quand je signe l'acte d'achat, je veux le règlement de propriété pour savoir effectivement quels sont les engagements que porte ce règlement et qui me seront effectivement répercutés quand j'aurai acheté. Ça paraît logique, effectivement.
C'est un peu différent. Vous prenez en compte les frais de fonctionnement, alors que ce qui est important dans le contrat de VFA, c'est plutôt le prix de cession. Et il faut être calé et clair sur le prix de cession.
J'entends bien sur le prix de cession, mais il y a quand même déjà les engagements aussi en termes de charges, donc sur lesquels il faut que le bien, au minimum, il soit quand même, je dirais, qu'il ait un périmètre, je dirais, pour être acté dans l'acte de vente. Alors, je vais en discuter avec le notaire, j'ai discuté, le contrat de VFA, j'ai des réservations avec une clause, effectivement, qui suspend, je dirais, donc qui prend les engagements de chacun sur une partie mutualisée, mais sans en donner toute la dimension. Donc, dans l'espoir, effectivement, moi, qu'à l'acte de vente, je dirais que les personnes qui se rendent propriétaires, ils aient ces informations, je dirais, pour savoir pleinement, je dirais, ce qu'elles achètent, et donc les charges qu'elles prennent de cet achat.
Oui, je comprends bien qu'en tant qu'organisme HLM, quand vous achetez en VFA, vous préoccupiez du fonctionnement. Voilà. Mais le retour d'expérience que j'ai des différents projets qui ont mis en œuvre la copropriété, y compris donc en locatif social, en accession sociale, en accession libre, les contrats de VFA, ils pouvaient être. Alors, je ne sais pas si c'est les contrats finaux ou les contrats préliminaires, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas,
les contrats préliminaires, ça ne me pose pas de souci, je pratique couramment. Ouais. C'est ce que je fais. Hein. Au moment où je signe l'acte de vente, là, le règlement
que vous avez. Ah oui, mais l'acte de vente.
Oui, mais l'acte de vente pour les accédants libres, hein, il est bien, donc effectivement, nous, on a le souhait qu'il soit fait pour le démarrage des travaux. Donc c'est pour ça que je dis que le règlement de copropriété, c'est donc un élément déterminant sur lequel il faut qu'on soit, je dirais, prêt très rapidement maintenant.
On avait parlé pour le mois de novembre.
Ouais.
Et donc, on s'était dit effectivement qu'on s'en avait un peu de temps pour y travailler. C'est pour ça que je pensais effectivement qu'aujourd'hui on allait rentrer effectivement dans le vif du sujet et que vous veniez avec des innovations, des propositions en la matière, qu'on puisse les confronter avec le notaire et le géomètre qui aura en charge d'établir l'état descriptif et des visions, puisque c'est surtout lui qui va travailler sur ces aspects-là. Hein. Et le notaire va nous mettre tout ça, j'irai en forme derrière.
Ouais. Alors. En fait, si on veut, il y a une cohérence entre le juridique et le financier. Depuis hier, on sait qu'il y a un problème financier. Il faut qu'on intègre et qu'on trouve une solution sur l'aspect financier pour pouvoir proposer la solution juridique qui est en cohérence. Oui. Donc, je comprends que, enfin, vous puissiez penser que depuis novembre, on travaille sur le sujet. En fait, depuis novembre, on travaille sur la gouvernance collective, la capacité à agir en répartissant le travail, et une fois que des problèmes sont identifiés, de pouvoir les réfléchir collectivement pour apporter des solutions. Donc, ce qu'on va faire demain, c'est remettre au cœur de notre discussion comment on apporte des propositions pour faciliter l'accession du maximum, si pas tout, du foyer déjà présent. Ça, c'est l'intention. Vous allez de l'autre côté, peut-être, et nous, on fera d'une autre, pour valider comment vous libérer, vous sécuriser dans la signature des contrats d'engagement VEFA. Mais si on a la possibilité de garder, comme ça s'est fait dans les autres projets, un temps pour bien articuler un règlement de copropriété qui dépasse simplement les préoccupations de lancement de chantier, parce qu'il conditionne aussi le fonctionnement commun pour des années à venir. On ne veut pas avoir à reconsidérer.
Il va peut-être falloir distinguer les choses. On a déjà parlé de la toute première réunion où vous étiez, M. Gernès. On avait dit effectivement qu'il y aurait le règlement de copropriété avec ses règles, parce que ça, elles sont incontournables. C'est le 65, je dirais, il y a des choses sur lesquelles on ne saura pas, je dirais, changer les choses. Alors, on sera obligé de les appliquer. Et ça n'exclut pas qu'à côté de cela, il y ait un règlement intérieur qui, lui, vienne fixer autrement les choses. Mais le règlement de copro, il va donner quand même, je dirais, tenu par des règles effectivement qui sont issues de la loi et pour lesquelles, je dirais, on ne pourra pas beaucoup changer les choses.
Oui, ok. Bon, je vais peut-être. Ouais. On va passer, vous allez voir les propositions qu'on a commencé à étudier. Ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est que sur les 14 foyers, pour ces 14 foyers, il y a un apport en capital. Soit direct par épargne, soit par la vente de leurs biens, qui représente 75% de la valeur des lots. Okay. Donc, moi, si j'étais banquier et que je voyais un groupe qui arrive collectivement en disant bah, « En fait, on va vous emprunter que 25%, je serais assez rassuré. » C'est pas le retour qui est fait parce que les choses sont prises individuellement. Okay.
Ouais.
Voilà. Mais c'est là-dessus qu'on voudrait agir, en fait. Comment on peut mettre en avant auprès de prêteurs le fait que globalement le groupe est solide. Ok, donc la suite. Je ne vais pas passer là-dessus tout de suite, je vais revenir plutôt ici. Donc le groupe souhaite mettre en place un dispositif de solidarité entre ses membres. Qui travaillent sur le projet depuis 5 ans. Certains, pour la plupart d'entre eux, 6 ans. Okay. Donc, on voudrait solliciter le notaire sur la possibilité de créer un 18e lot avec des espaces mutualisés qui représentent 14% du coût total. En se disant, peut-être que ça peut faire la différence pour certains foyers de ne pas porter complètement le financement dans l'immédiat de ces 14% pour qu'il puisse y avoir une forme de solidarité qui s'instaure au sein de ce 18e lot.
catégorie. Il faut voir, mais bon, comme ça, à première vue, je ne sais pas si ça va être ça qui va permettre, parce que ce 18e lot, bon, il va enlever effectivement quelques mètres carrés, et donc là, sa contrepartie financière. Et aujourd'hui, dans les retours que j'ai, moi, avec les fonciers, ce sont
pas suffisant.
C'est pas ces enjeux-là. Les enjeux, ils sont très clairs. Hein. C'est où les personnes sont trop âgées pour pouvoir emprunter sur une longue période. Donc, parce que le prêt crédit foncier n'accorde des prêts que jusqu'à 80 ans, c'est déjà.
C'est pas mal.
Pas mal. Hein. Et pour le coup, donc effectivement, la personne a un taux d'effort trop important parce que bien sûr il faut raccourcir l'achat sur une courte période. Et le seul moyen, c'est de débloquer, je dirais, les fonds propres. C'est de dire, vous aviez pensé mettre 60 000, bah, c'est de pousser à 100 000 euros donc de fonds propres pour pouvoir faire l'acquisition. Et les personnes n'ont pas forcément cette capacité à pouvoir trouver quasiment leurs fonds propres. Hein, donc il y a cette première situation. Avec les autres cas, on a vu aussi, quelquefois c'est par rapport aux ressources, la situation des personnes, là aussi les banquiers ne suivent pas parce que là c'est pas une question de prix, mais c'est parce que effectivement les ressources ne sont pas suffisantes, il y a des ressources de prestation qui ne sont pas prises en compte, là aussi, mais à un moment donné, il faut forcément trouver une autre hypothèse, je dirais, de financement si la personne veut pouvoir continuer. Et après, ça ne peut être que sur effectivement soit un support parental, soit un support associatif pour pouvoir venir en aide de cette personne. Mais c'est pas à l'échelle, à mon sens, d'un 18e lot.
Je comprends bien. C'est peut-être pas suffisant.
Ce serait pas suffisant. Hein.
Voilà. Ça pourrait aider, mais ce serait peut-être pas suffisant. Alors, il y a une autre option sur laquelle on travaille, c'est une forme de solidarité interpersonnelle, ou on va dire des prêts sur l'honneur. On est en train de regarder. Et la troisième, c'est un dispositif qui est en train de se monter. Sous réserve que le groupe soit dans les clous du projet Oasis, on en a parlé à quelques-uns, j'ai pas eu le temps de m'en parler à tout le monde. Je sais pas si vous avez entendu parler du mouvement Colibri. Colibri, c'est le mouvement citoyen.
Non.
Qui a été lancé à l'initiative
Pierre Rabhi.
Depuis 2012. Et qui est en train de créer une SIC Oasis qui va faire une collecte de fonds solidaires pour pouvoir prêter à des projets qui portent on va dire, les valeurs de Colibri, les valeurs de Oasis. C'est assez proche de celles que vous aviez tout à l'heure, Janine, et qui serait en mesure de faire des prêts sur l'honneur de 30 à 300 000 euros à taux zéro pour projet qui incarne les valeurs de la télévision. Donc pour ça, je vais recevoir ce soir, je ne sais pas encore si une copropriété est le support juridique adapté. C'est peut-être pour ça aussi que des prêts sur l'honneur inter membres pourraient avoir lieu en complément d'un apport de Colibri sur des lots.
Après, c'est un financement comme un autre.
Voilà.
Ce que vous proposez, c'est bien. On pouvait aussi penser à un moment donné qu'au niveau de l'association, que l'association puisse contracter aussi un prêt légitimement et qu'elle prête à ses adhérents. Après, bon, c'est des mécanismes.
Alors, je ne sais pas si une association comme l'HPC, compte tenu de son objet,
Alors, voilà, après,
pourrait être au bénéfice d'un financement bancaire. Par contre, une SCI qui porterait le 18e lot, qui aurait des choses tangibles, elle serait probablement plus en cohérence pour obtenir un financement bancaire, voire un financement du mouvement Colibri. Voilà. Donc, c'est le sujet-là, bon, c'est le sujet que je ne maîtrise pas effectivement suffisamment, donc pour lequel on est en train d'échanger avec un avocat aussi, mais je voulais pouvoir en discuter avec le notaire. J'ai tenté de le joindre, mais je vais continuer la semaine prochaine pour évoquer avec lui ces pistes, on va dire. Si tant est que le groupe est aussi OK pour les explorer. Voilà, pour vous dire que on prend en considération les objectifs on travaille sur les solutions. On peut difficilement être affirmé qu'elles seront trouvées la semaine prochaine. En tout cas, on garde en tête l'objectif commun pour libérer les contrats de VFA. Si tant est que le règlement a besoin d'être totalement finalisé, je pense que ce qui est important, c'est que le prix de cession VFA soit arrêté, pouvoir être mentionné dans le contrat. À partir de là, l'écriture rédactionnelle finalisée du règlement,
je pense qu'il pourrait être différent. Il faudra quand même un état d'esprit de division pour pouvoir publier un texte. Si ce n'est pas un tel script de division, c'est fichu. Hein. Ouais. Donc il faut au moins ça. Donc il faudra que soit tranché 18e lot par 18e lot.
Oui,
là, c'est des aspects, je dirais, il n'y a pas le choix là, là-dessus.
Les mêmes scripts de division, en fait, en général, ils ne se fait pas au moment où le chantier est terminé, parce qu'il induit des mesures précises par rapport à les réalités de l'écrit.
Au stade où on est, ça ne bougera quasiment plus. Après. On prévoit de toute façon dans les actes qu'il y ait des
tolérances
de tolérance de je sais plus, 7,5%. Voilà, donc c'est bon.
Donc, en général, dans toutes les opérations.
Toutes nos opérations, moi je dis, je n'ai pas fait un acte d'achat de logement auprès d'un promoteur sans avoir le règlement de copro, l'état d'esprit de division. Ouais. Et c'est normal, puisque le notaire il ne peut publier que si donc les lots sont clairement identifiés et que, un, l'état descriptif, il a été lui-même, je dirais, comme enregistreuse d'hypothèque. C'est pour ça que le règlement de copro, j'ai un peu de mal à
penser qu'il ne soit pas,
qu'il ne soit pas nécessaire.
D'accord.
Et on pourrait, nous, vendre un lot comme ça, constitué d'espaces mutualisés dont l'acquéreur sera un collectif.
C'est pas notre objet.
Eh ben c'est bien pour ça.
Hein, c'est pas notre objet. Après,
c'est pas dans notre objet.
Très bonne remarque. C'est pas dans notre objet.
C'est pas dans notre objet. On peut pas.
En vente directe.
En vente directe, on peut pas. On est vachement contraint, nous, dans notre statut.
Oui.
C'est.
Comme on n'a pas beaucoup d'exemples de projets d'habitat participatif avec bailleur et copropriété, on les a avec des maîtrises d'ouvrage d'insertion et des SCIA, la majorité des projets. Où il y a la mixité sociale.
Des structures privées.
C'est une maîtrise d'ouvrage qui est portée par la SCIA, éventuellement déléguée au bailleur. Donc c'est un montage un peu inversé. Ok. Vous en êtes absolument certain ? Il n'y a pas de doute.
Quasiment convaincu, mais à vérifier. On l'avait évoqué avec le notaire. On l'avait évoqué avec le notaire. Mais par contre, effectivement, c'est dans la possibilité. On l'avait évoqué uniquement dans un schéma de copropriété et d'administration de la copropriété. On l'avait pas étudié sous l'angle vent. Mais sous l'angle vent, là, pour le coup, ça devient problématique. Nous avons des commerces qu'on fait quelquefois pour empiler de nos immeubles et nous n'avons pas le droit de vendre des locaux commerciaux directement. On n'a droit que de revendre. Donc là, on serait forcément, je dirais, dans une vente directe en l'état futur, puisque c'est comme le consommateur construit, et donc on n'a pas le droit.
C'est marrant. On a levé, c'est le point précédent, on a identifié que les OPH sont en mesure de faire de la vente en voie Pinel. Ça, c'est les articles référents. Donc, voilà. Bon, ça veut dire que même un OPH est en capacité de vendre une personne physique des biens pour location. On n'est pas très loin de ce dont on parle. Hein. On n'est pas très loin. Parce que l'un, alors on n'est pas tout à fait abouti, et c'est pour ça que j'ai pris contact avec un avocat qui s'est penché sur le sujet de l'habitat participatif depuis quelques années, et qui va sortir un livre en septembre sur les montages juridiques dans le cadre de l'habitat participatif. Et donc c'est avec son aide qu'on voudrait examiner ce montage-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui ont exploré ce champ-là. Il le ferait pas seulement en titre d'avocat, mais aussi en titre de journaliste. Il est affilié à des revues de notariat, et il sera soumis aussi à validation d'un comité scientifique pour que les préconisations qu'il pourrait faire puissent être validées par un comité d'experts.
Mais là, dans le Pinel, dans l'espèce Pinel, c'est donc la personne qui achète n'est pas la personne qui occupe. On est d'accord, hein.
On est d'accord.
Il loue, hein. Oui. C'est la même chose, hein.
C'est pas tout à fait la même chose, vous avez raison.
C'est pas la même chose.
C'est vrai. Alors, mais.
Faut l'acheter et puis le revendre, alors.
On joue un peu sur les mots, hein.
Faut l'acheter et puis le revendre.
Ah ben non, parce que là c'est pareil. Donc pour l'acheter, donc effectivement, il faut le garder. Je pense qu'il y a un certain temps de garde. C'est pas comme ça. Hein.
Alors,
je connais pas le dispositif final parce que nous on pratique pas genre de choses. Hein, c'est pas là aussi dans notre cœur de métier. Bon après, c'est vrai, mais je veux dire, pour le coup, c'est. Et la personne qui l'achète, elle l'achète pour quelqu'un d'autre. Hein.
Elle l'achète pour le louer.
Pour le louer. Hein.
Et en principe, pour en faire un outil de défiscalisation.
Voilà.
Je sais que ce dispositif a été utilisé pour permettre à des foyers de rentrer dans une opération d'habitat participatif. C'est un peu limite, j'avoue. Voilà, mais ça fait partie de la pratique.
Mais en n'attendant pas
effectivement,
la défiscalisation.
Bien sûr, en n'étant pas éligible à la défiscalisation, donc sans activer la défiscalisation. Ça répond malgré tout à une intention de mixité sociale, d'inclure dans un projet. En fait, les candidats partagent des valeurs. Quoi. Voilà. Donc il y a une cohérence, mais qui n'est pas tout à fait saine du législateur par rapport au dispositif.
Et là, dans le futur, vous trouvez donc un investisseur, effectivement, sur un logement.
Voilà.
Dans cette opération.
Alors, nous, la préoccupation, c'est de dire donc il y a un foyer que vous connaissez de longue date, qui partage les valeurs. Et qui dépasse de 4 ou 5 000 euros le plafond du PLI accession. C'est le troisième foyer, le foyer Le Roi. Trouver une solution, il n'y en a pas des 10, des 1000 quoi. Hein. La première qui paraissait la plus simple, c'est, puisque vous avez signé un contrat avec le promoteur, c'est de faire un avenant et mettre un troisième foyer. Quelle serait la contrainte, on va dire, parce que je comprends bien qu'il y a des tolérances, il y a des règles qui s'appliquent au logement social, et en particulier aux organismes publics et de l'habitat, qui font que
l'objet principal, c'est pas celui de...
Non, et je m'en suis déjà expliqué avec M. Gernès hier, hein, on est aux limites du réglementaire sur ce qu'on fait. C'est bien ça, rien de réglementaire. Moi, demain, je suis un contrôle de l'ENCOLS, qui est notre organisme de contrôle, qui peut très bien
allons jusqu'au bout. Admettons que l'ENCOLS vous
nous
dise...
nous pénaliser alors, sur cette action.
Quelle serait la conséquence de l'alerte que vous donnerez à l'ENCOLS? Est-ce que ce serait un avertissement? Est-ce qu'il y aurait des conséquences financières? Et s'il y avait des conséquences financières, est-ce que ça voudrait dire une imposition sur la société? Une imposition?
Ça peut effectivement une pénalisation sous forme indemnitaire. Ça peut être aussi effectivement dans couper les financements à l'organisme. Ça peut aller jusque là encore. Surtout, reçoit bien clair. Nous avions deux situations. On les a régularisées. Oui. On a accepté. Si demain on a l'ENCOLS, on ira s'en expliquer. Bien, voilà, ça faisait 3, 4, 5 ans qu'on travaillait avec des personnes. On ne pouvait pas lâcher les choses. Et on a cherché une solution pour pouvoir faire conserver les personnes et de pouvoir aller jusqu'au bout avec eux. Après, si moi je joue entre guillemets et que j'en remets un foyer alors que j'ai déjà testé sur deux, alors que la personne n'était pas là depuis le départ, là l'ENCOLS se dit bon ça va.
Non mais alors je comprends bien que ce serait difficile à expliquer.
C'est inexplicable. Et je pense que c'est inexplicable pour moi, mais ça sera encore moins pour Mme Escoulis.
Alors maintenant, si l'explication était en fait le foyer. Il ne s'est pas inscrit dans le groupe dès le départ, mais il est en phase avec le projet depuis longtemps. Okay. Il s'est décidé un peu tardivement. Comment l'ENCOLS saurait que ce foyer n'est pas dans le groupe depuis 5 ans?
Comment l'ENCOLS, ils peuvent toujours effectivement nous solliciter. Ils ont des capacités d'investigation, et s'ils le souhaitent, effectivement, au travers de tout ce qui a été présenté en amont de l'opération depuis 2013, depuis l'origine. On a des personnes, il y a des personnes
qui sont
ils ont accès à nos fichiers. Vous savez, ils s'installent, ils prennent un ordinateur.
Comme le fait la Cour des
comptes. C'est un organisme de contrôle. On a un cadre réglementaire dans lequel on doit s'inscrire. Quand on en sort, c'est pareil. C'est quand vous faites des attributions de logement en dehors du plafond de ressources, et ben, vous passez à la caisse.
Et je dirais même qu'en plus, ils sont assez friands comme ils viennent d'expérimentations qui sont menées par les organismes.
C'est les dossiers qui regardent.
C'est le premier dossier qui regarde.
Ce qui sort du cadre normal, effectivement, ils regardent si justement ces dossiers-là ne vont pas.
Et est-ce qu'ils ont, on va dire, une sympathie, mais est-ce qu'ils prennent en compte l'objet d'innovation?
Non, c'est pas des gens. C'est des contrôleurs.
C'est bien. J'avais déjà vu. J'avais vu ces gars pour le casque.
Pour s'apitoyer sur votre situation.
Je crois qu'ils ne sont pas tournés autour du pot. Les contrôleurs, c'est jamais ou rarement des gens très sympas.
C'est pas leur rôle.
C'est vrai que ce que je pourrais dire, en cas présent, ces personnes-là, avant que l'opération soit lancée par la mairie et par la maire, qui ont examiné une possibilité de faire de l'habitat participatif chez eux.
Dans la parcelle.
Donc c'est vrai, effectivement, nous on sait qu'ils sont en bordure, mais bon, ils n'ont pas participé. C'est pour ça que c'est quand même intéressant. On essaie de trouver des solutions.
Est-ce qu'à contrario, si on posait la question à l'ENCOLS,
il risque quand même pas.
Non. Tout au moins les dans
l'année. Surtout, oui, c'est.
Ils viennent tous les
combien? Ils viennent tous les 4
ans. C'est tous les 5 ans.
6 ans.
C'est les 5 ans, donc on a largement passé les
5 ans. Là, on a passé les 5 ans. On sait qu'on les a cette année. Et on sait que ce projet-là sera.
Il sera gravé. Ça fait partie de ces projets, effectivement, dont la longueur peut alerter aussi nos organismes de contrôle par rapport, je dirais, à notre budget. Donc, ça sera forcément les dossiers qui sont pointés. Donc là aussi, les deux régularisés sur lesquels effectivement on est en train de s'en expliquer avec eux. mais je ne vois pas aujourd'hui racheter un troisième dossier.
Okay.
Alors, c'est en attente alors qu'il
change. Est-ce que ça voudrait dire pour vous la piste du dispositif Pinel est préférable?
Alors, je veux bien la creuser celle-là. Je veux bien la creuser parce que pour le coup, si on est dans le réglementaire, ce que je disais tout à l'heure, si vous trouvez un ou des investisseurs dans l'opération qui sont prêts donc, effectivement à acheter et à louer ces logements-là donc, à des personnes qui rentrent dans les conditions de ressources du Pinel. Pourquoi pas
Ils ont mais... des enfants, c'est sûrement un petit peu rajouté pour eux.
Ça, je crois pas.
C'est exactement ça. Le montage, il est à chercher dans la famille.
C'est les enfants qui achètent et les parents s'installent, louent.
En fait, c'est une transmission en plus. C'est pas
non, mais dans l'exemple de monsieur.
Le roi ?
Non, je parle de monsieur
Cazin,
s'il était effectivement sur une accession libre, ça pourrait être une situation. Les parents achètent et leur fils ayant les conditions de ressources pour pouvoir accéder donc, à ce jour-là, ils pourraient le mettre en location à leur fils.
Oui, c'est paradoxal hein, que les ressources de l'indemnité d'handicap soient pas prises en compte par le
banque. Et en plus, ce n'est pas propre au Crédit Foncier. J'ai une autre opération d'accession à la propriété où j'ai la même chose d'un autre argument.
La discrimination, finalement.
C'est mauvais, ça, une discrimination au niveau journaux. Ouais. Si on parle de discrimination maintenant,
c'est pas bien. Discrimination par
rapport à.
C'est pas encourageant pour l'handicapé, c'est sûr.
C'est sûr.
Ok. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des questions à notre côté?
Non, je dis. Je regarderai le Pinel quand même, un projet.
Ok. Très bien. On vous fera suivre le document si vous voulez. On prendra le financement. Très bien.
Donc, sur le règlement de copropriété en lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut se donner raisonnablement comme objectif et échéance?
Alors, j'ai envisagé, je vais en parler au groupe demain, de rencontrer cet avocat le 4 et le 5 mai. Comment? C'est tard. J'ai des vacances. Il fait cette
disponibilité. La solution.
On peut faire le point avec lui la semaine prochaine au téléphone.
Oui.
Le 19 ou le 20, je suis prêt à héberger un créneau ouvert. Pour savoir si on lui demande de venir. Alors. C'est son intervention, je vous dis, c'est pas tout à fait une prestation. Non, c'est le contraire. Mais c'est parce qu'il viendrait pas au titre d'avocat, mais au titre de journaliste juridique. Hein? Donc la contrepartie de son intervention, en dehors du fait qu'on lui paye ses frais de déplacement, c'est qu'il va écrire un article. Il va écrire un article qui sera public. Et qui fera état d'un cas de figure, ce que je vais poser comme problématique, comment dans une copropriété on peut réaliser un montage qui favorise la solidarité entre les copropriétaires. Okay. Donc ça va être sa contribution qui sera publiée. Il aura un droit de regard sur ce qu'il va écrire. C'est-à-dire que s'il y a des éléments qui nous paraissent pas justes de mentionner, il ne mentionnera pas. Par contre, sur l'aspect juridique, il est totalement autonome et son écrit sera validé par un comité scientifique. Voilà, donc, si vous êtes d'accord, on pourra le faire venir.
On sera sur le blog.
Ouais. Il s'appelle Thierry Polichot. Il a en plus été gérant de copropriétés à titre bénévole. Il a porté plusieurs copropriétés pour faciliter les choses. Voilà, c'est quelqu'un d'assez assez intéressant. Voilà. Merci. À tous.
Donc, j'ai pas plus de dates que ça.
Une date une date de rendez-vous potentiellement, le 4
ou 5 mai. Donc, ça
devrait le 4 ou 5 mai.
Ouais. Là, je pourrais pas dans cette période-là parce que je ne serai pas là. Mais donc, la prochaine fois qu'on se voit, faut qu'on ait de la matière.
Oui, on est d'accord. On est d'accord. On aura de la matière, on n'aura pas
un
règlement de copropriété totalement arrêté dans sa écriture, mais on aura des bases qui devraient permettre un calcul des lots, quoi.
Enfin, en même temps, ces règlements de copropriété sont relativement stricts par rapport à la loi.
Ah ben oui, mais ce que je disais tout à l'heure, bon, c'est ça.
Oui, mais s'il y a ou pas un 18e lot, ça change les choses.
Ah oui, non.
Voilà, après, voilà, c'est plus dans votre organisation derrière.
C'était comment gérer ces espaces mutualisés qui reprennent notre règle qu'on avait établie de répartition.
Et moi, j'ai regardé quand même le 18e lot, parce que comme on l'a souligné tout à l'heure, pour nous, c'est loin d'être évident de pouvoir le.
Ce qu'on avait évoqué avec le notaire de mémoire, c'est que ce 18e lot est un lot du descriptif de division, hein, où chacun des copropriétaires avait une quote-part, mais ne constituait pas de fait un lot cessible.
C'était uniquement dans la perspective, si demain, je dirais, il n'y avait plus cette notion de.
Et autre chose, le fait de
constituer une autre destination.
Dans le descriptif de division, le fait de constituer ce lot à part, qui vous appartient à tous, permettrait potentiellement à l'avenir, et à l'inverse, hein, que le collectif, s'il en est d'accord, de pouvoir le céder un jour. Hein, que quelqu'un puisse céder, vous céder par exemple votre appartement.
Une dépendance attachée.
Exactement. Et c'était là l'intérêt de faire. C'est pas l'intérêt de vendre un 18e lot. Ouais. Hein, à mon sens,
il y a une indivision sur ce lot.
Exactement. Exactement. C'est là l'intérêt. Et d'ailleurs, on l'avait évoqué justement comme une alternative qui pouvait être intéressante pour vous, hein, de dire moi, un jour, le collectif, pour une raison ou pour une autre, on souhaite le céder, pourquoi pas retransformer cela en logement un jour, hein, en logement un jour sur le là, puis la grande salle puisse être transformée, pourquoi pas, et auquel cas ce serait l'indivision qui céderait ce bien.
Mais c'est ça, mais ça reste compliqué parce que quand il y a une indivision, il faut que tout le monde soit d'accord.
En tout cas, c'est faisable. Que de ne pas constituer ce lot-là, de dire voilà, chacun, je suis propriétaire et d'une partie de quelque chose qui n'est pas déjà défini. C'était sous cet angle-là que ça avait été soulevé, pas sous
l'angle comme un lot cessible.
Il y a des implications sur la TVA, une implication fiscale potentiellement. Voilà, je n'ai pas la capacité à dire que c'est la bonne solution, mais en fait, on voudrait l'étudier. Ça peut être un véhicule de solidarité, parce qu'on voit bien que dans une structure de ce type-là, il peut y avoir des comptes courants d'associés et que certains avancent que d'autres ne peuvent pas payer.
Et il y a un régime de TVA qui s'appliquerait de manière.
Ça dépend.
En PSLA aujourd'hui, la quote-part achetée, elle est sous un régime de TVA 5,5. Il passerait à 20.
Sur cette quote-part.
Oui,
c'est un renoncement de.
Ça, exactement.
Sur la quote-part, renoncement à la TVA 5,5.
On a calculé à 25 000 euros.
Maintenant, la TVA 5,5, elle n'est pas non plus garantie. Hein, dans le contrat préliminaire, elle est sujette au taux en vigueur au moment de la levée d'option.
Toutes nos opérations.
En
Ah oui, on change la règle. En fait,
on a pris plein fouet.
Ils ont changé la règle du jeu. Parce qu'avant, c'était le co-générateur. Ouais. Hein, il était souvent à l'ordre de service. Et là, aujourd'hui, nos opérations qui sont en cours, malgré certaines.
C'est ma foi. Après
le moment où on s'est bien cette année, elle était moins jugée réceptionnée.
J'y ai cru parce que.
Eh bien, on nous a fait passer la TVA à 10.
C'est sur l'éligibilité.
Y compris rétroactivement, ce qu'elle était déjà.
Ça fait un paquet.
Voilà, donc en fait, cet avantage, il est peut-être un peu. Il reste incertain.
Oui, enfin, bon.
Pour l'instant,
les règles. Pour l'instant, il existe.
Pour l'instant, il existe. Mais en, voilà, ce que je pressens, c'est qu'entre sécuriser le montage pour tout le monde et avoir l'avantage de cette cote-part de TVA sur l'espace mutualisé, je crois que le poids. Le principal sera les tranchées. Voilà. Bon, on a du pain sur la planche.
Des urgences.
Car vous êtes prêt à prendre.
J'ai une petite question. Oui. Si vous avez des visuels, on a vu la magnifique image sur le
3D,
un des derniers contrats. 3D, oui. Si vous en avez en réserve, je suis preneur comme webmaster.
J'ai que celle-là. J'ai que celle-là, celle qu'on a pour la commercialisation, qu'on a fait en image.
Par les architectes. Oui, c'est celle-là. Ouais.
C'est vous qui l'avez fait ou
bon, on l'a fait faire.
Ouais. C'est oui, ouais. Donc c'est pas les architectes.
Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est eux qui l'ont fait, mais on l'a payé. Oui. C'était pas dans leur contrat. C'était pas dans le contrat.
Dommage.
Donc vous voudriez la récupérer, c'est là.
Si vous avez l'original, oui.
De toute façon, aujourd'hui, nous, c'est celle-ci dont on sert par rapport à l'ancienne qu'on connaissait, donc sur tous les contrats. Donc, j'ai substitué maintenant cette nouvelle image de l'opération.
Oui.
Ok, merci.
L'autre, c'était un peu.
Ah, c'est
crayon, quoi.